De retour à l'émission d'affaires publiques, l'heure juste à l'antenne de la radio CHGA. Une présentation du service d'information de votre radio CHGA.
On a maintenant au bout du fil M. Marc Plourde. Il est le président de la Fédération des pourvoiries du Québec. M. Plourde, bonjour.
Oui, bonjour, M. Parent.
Ben, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation.
Un plaisir.
Qu'est-ce que vous avez pensé d'entrée de jeu de l'entente qui a été signée entre Québec et les communautés? On ne connaît pas tous les détails, mais les grandes lignes.
Ben, je vous dirais d'entrée de jeu, c'est un soulagement là, de voir que le gouvernement a réussi à trouver un terrain d'entente avec les communautés concernées. Vous savez, on est dans notre deuxième année de COVID, les pourvoiries. Hein. Vous savez qu'on a encore beaucoup de restrictions ce printemps, des pertes de revenus qui sont quand même considérables. Donc, pouvoir regarder l'avenir avec un peu plus de sérénité, je vous dirais, ça va être apprécié par nos gens.
Oui, les membres sont satisfaits aussi parce que, bon, ils ont goûté, si je peux dire, l'an passé, là, beaucoup de réactions qu'on a obtenues, nous, sur nos ondes de différentes pourvoiries qui ont été affectées, qui n'ont pas pu avoir de clients ou dont les clients ont peut-être été intimidés ou en tout cas, ils n'ont pas aimé là, leur passage à travers les barricades et tout ça. Ça n'a pas été l'idéal, là, loin de ça. Là.
Non, loin de là, effectivement. Puis, vous savez, tu sais, un entrepreneur, ça a besoin de voir en avant. Hein. Faut voir la lumière au bout du tunnel. Là, on a le tunnel de la pandémie. Je pense qu'on s'en sort collectivement, mais maintenant, ben, je pense que cette épée de Damoclès là qui pendait sur la tête de plusieurs de nos membres, ben, je pense qu'on peut garder l'avenir avec confiance, puis en espérant justement que les relations avec les communautés vont s'améliorer, puis que on aura davantage de dialogue et d'échanges avec les membres des Premières Nations. Je pense que la paix sociale, c'est un incontournable pour l'ensemble des communautés.
Ouais.
Incluant la population québécoise. On souhaite avoir une relation harmonieuse. Donc, de pouvoir penser que le dialogue va se faire dans un climat de plus serein et plus paisible, c'est une excellente perspective pour nous.
Puis tu sais, nous, là, parce que là, ça va permettre un moratoire sur la chasse. On va pouvoir en fait permettre de faire des études pour savoir le cheptel de Rigno, est-ce qu'il est en santé? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Donc, c'est bon pour les communautés qui chassent pour la subsistance, mais également pour la chasse sportive. Puis dans les dernières années, moi, les échos que j'avais, c'est que justement, c'était peut-être moins intéressant la chasse dans ce secteur-là également, là.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a un désir de l'ensemble des intervenants là, d'avoir une meilleure gestion, un meilleur contrôle là, sur justement notre population faunique. On connaît l'importance que ça a pour les communautés Anishinaabe sur le territoire. Mais effectivement, pour l'ensemble des chasseurs, je pense que d'arriver dans une situation comme celle qu'on vit là, dans la Vérandrie, c'est pas... Je vous dirais, c'est pas l'idéal. Hein. On souhaiterait ne pas se rendre à des situations comme ça pour être obligé de prendre des gestes aussi, je dirais, drastiques là, que de fermer la chasse sportive pendant 2 ans. Par contre, c'était les gestes à poser. Tout le monde en a convenu dans ce dossier-là, je pense. Donc, c'était nécessaire. Maintenant, ça implique aussi une responsabilisation de l'ensemble des intervenants. Je pense que Faut qu'on donne aussi aux communautés les moyens de faire respecter un certain code de pratique puis certains engagements. Je pense qu'il faut que les prélèvements soient comptabilisés, entre autres. C'est autant de la part des chasseurs sportifs que des prélèvements comprennent les accidents de chasse. Tout ça, les accidents de chasse, mais les accidents aussi, tout ça, c'est considéré. Mais les prélèvements des membres des Premières Nations, ça doit aussi être géré de façon assez précise, avec des données, qu'on puisse faire un suivi vraiment le plus complet possible là, de la dynamique, oui, des populations, mais aussi de l'exploitation que les différentes parties prenantes en font.
Mm-hmm. Ben là, c'est intéressant, M. Wabanonik, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il disait que... Nos membres ont toujours le droit, c'est un droit acquis, la chasse de subsistance, mais il dit, il y en a plusieurs avec qui j'ai parlé qui m'ont dit qu'ils vont éviter d'aller chasser, qu'ils ne le feront pas pour respecter eux aussi le moratoire. Donc, il dit, on n'a pas l'obligation de le faire, mais il y en a qui vont quand même mettre l'épaule à la roue. Comment vous trouvez ça?
Ben, moi, je trouve ça super, puis je pense que ça témoigne clairement de l'engagement de l'ensemble des parties, tu sais, pour parvenir à des résultats probants, pour rétablir rapidement la population dans la réserve faunique de la Vérandrie, pour faire en sorte qu'on puisse satisfaire les besoins de l'ensemble des parties prenantes. Encore une fois, évidemment, les membres des Premières Nations ont un droit prioritaire, c'est reconnu, c'est inscrit dans nos lois, là, c'est reconnu par tout le monde. Maintenant, ben c'est justement la qualité de notre gestion qui va faire en sorte qu'on en ait pour tout le monde, pour l'ensemble des utilisateurs, avec une répartition qui soit le plus adéquate possible, puis qu'on s'assure de répondre aux besoins à la fois des chasseurs québécois, évidemment, à partir du moment où les besoins des communautés sur le territoire est comblé. Puis c'est ça l'exercice d'un droit prioritaire. Maintenant, ben tout ça, faut être capable de le pondérer, de le calculer. On se donne des allocations pour parvenir à des résultats, ben il faut avoir des cibles. Si c'est tant de chasseurs québécois pour tant d'orignaux, ben on a toujours géré comme ça, nous autres, dans notre univers. Ben je pense que les mêmes outils vont devoir être mis à profit pour garantir justement que les membres des Premières Nations ont leur juste part, mais qu'il n'y ait pas non plus de débordement. Puis c'est à ce titre-là que je dis qu'il va falloir donner des moyens aux communautés de pouvoir participer à la protection de la faune et à la gestion de la faune, notamment sur le territoire de la réserve faunique de la Vérendrye.
Dernier sujet avant que le temps file. Dernier sujet avant qu'on se laisse, M. Plourde. Il y a toujours des compensations, je pense, qui sont demandées de la part de certains pourvoyeurs qui ont été affectés l'an dernier. On en est où dans ces négociations-là? Est-ce qu'il y a une ouverture de la part de Québec?
Bon, écoutez, on entend... d'une part, vous savez, le ministre Dufour a quand même annoncé une mesure gouvernementale pour le soutien du développement des pourvoiries, puis on sait qu'il y aura une place particulière de fait là, dans ce programme-là pour les pourvoiries qui ont été victimes, là, qui ont subi des barricades autochtones. J'entendais le ministre Lafrenière aussi faire état des discussions qu'il a eues avec sa collègue au ministère du Tourisme, Mme Pou. Donc, il semble aussi qu'il y a eu des discussions pour voir de quelle façon, là, au niveau touristique, on peut venir soutenir des entreprises les entreprises de pourvoirie, puis éventuellement, je pense avoir une meilleure participation des communautés et des membres des Premières Nations dans l'industrie de la pourvoirie, parce que je pense que c'est un secteur d'activité, le tourisme, qui est propice là au rapprochement entre les différentes cultures, puis au rapprochement entre les différents peuples qui peuplent notre territoire, là.
Et qu'ils le connaissent, ouais. Et qu'ils le connaissent du fond de leur poche, hein. Tu sais, c'est ça, c'est les mieux placés pour guider.
Oui, puis on pense à de la clientèle internationale, notamment. Ils ont une soif d'apprendre, de connaître les gens qui peuplent le territoire. Et évidemment, les communautés de Première Nation font partie. Puis je pense que même les Québécois, tu sais, par le biais du tourisme, ont un accès privilégié à découvrir ces communautés-là, à améliorer la connaissance mutuelle et puis le dialogue là entre les peuples. Je pense qu'on va parvenir à un avenir beaucoup plus rayonnant comme ça. Fait que l'entente, là, je pense que c'est un très bon pas dans la bonne direction. Et nous, on va assurément répondre présent si notre collaboration est demandé là, pour participer là, aux discussions on doit être mis à contribution. Je pense que les pourvoyeurs sont quand même... dans la réserve, on s'entend qu'il y aura quelques impacts pour certains pourvoyeurs. Le duo moratoire, ça reste quand même marginal. Puis je pense que l'objectif suprême, c'est le rétablissement des populations de l'Union sur le territoire de la réserve. Puis ça, avec l'entente qu'on a là, on va y parvenir rapidement, j'en suis persuadé.
Puis on verra le détail, hein, parce que j'ai posé justement la question au négociateur, M. Wabanonik, puis il dit, écoutez, il faut qu'on attende les détails, de les avoir, ces détails-là, pour savoir exactement l'impact pour quelle pourvoirie, quel territoire exactement va être visé. Mais bon, on va attendre ça là, impatiemment, vous et moi, et plusieurs chasseurs également. Marc Plourde, président de la Fédération des pourvoiries du Québec, merci d'avoir pris du temps pour passer à l'heure juste aujourd'hui, c'est apprécié.
Merci, M. Parent, au plaisir.
Pareillement, au revoir. Donc, écoutez, vous voyez, c'est très intéressant. On voit que c'est un premier pas dans la bonne direction. C'est sûr que quand on chasse depuis 30 ans, 40 ans au même territoire, on est des bibites d'habitude, hein? Ça peut déranger un peu, mais on se rend compte que si on prend du recul puis on regarde le big picture, comme ils disent les Anglais, là, si on regarde le portrait en général, ben on peut se rendre compte que effectivement c'est dans l'intérêt commun que de prendre une pause, vérifier, parce que même les communautés nous le disaient, c'est peut-être pas la chasse le problème, c'est peut-être les mines, c'est peut-être les entreprises forestières, c'est peut-être la présence de prédateurs, mais il faut prendre le temps de prendre le temps. Finalement, c'est ce que j'en ai compris. Restez avec nous, les nouvelles de Cogeco qui s'en viennent dans un instant et au retour de la pause. Ben, on parle de notre député William Amos qui a fait une deuxième bévue en un peu plus d'un mois. Il a été surpris en chambre, en virtuel, en train d'uriner dans une tasse à café. Vous avez bien entendu, c'est pas une blague. Il voulait assister aux délibérations, il voulait assister aux rencontres, il voulait pas manquer. Et finalement, ben, il a fait pipi dans une tasse à café. Qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les répercussions d'un geste comme celui-là? C'est ce qu'on parle dans un instant.